Ô rage, ô désespoir, Natixis ennemi, n'ai-je donc épargné que pour cette infamie, et n'ai-je sou à sou tant économisé que pour voir en un jour mon argent envolé. Sarko, qu'avec respect toute la bourse admire, Sarko qui tant de fois nous a dit d'investir et tant de fois vanté le rôle du marché, trahit donc ma querelle et me laisse tomber. Et les banques sauvées avec tous ces milliards font que mes trois actions ne valent plus un liard. Nouvelle indignité fatale à mon honneur, précipice élevé pour les petits porteurs. Ça fait une belle somme, mais où est le pognon de plus de 2 800 000 pigeons ?
Bonjour, je viens d'écouter votre émission, là-bas si j'y suis. Je m'appelle Marianne et je suis profondément choquée de la façon dont vous avez traité M. Hirsch. Il y a une chose quand même que je voudrais vous demander, d'être un tout petit peu plus neutre dans vos reportages, parce que durant 20 ans, nous avons, avec nos impôts, entretenu comme un nounou les gorilles du président qui entouraient Mazarine. Il y en avait 4, nous l'avons payé avec nos impôts, ainsi que le logement de sa maîtresse et certains voyages en Égypte. Quand on fait de la radio, il faut essayer d'aborder les sujets de façon neutre. Voilà, ça m'étonnerait que vous passiez mon message. Mais je tenais à vous le dire, je suis profondément écœurée de vos attitudes. Au revoir.
Bonjour, c'est Marie, je suis en Savoie. Je voulais revenir sur le RSA, ce dispositif qui a été lancé à grand renfort de publicité et d'effet de manche de la part des ministres du gouvernement, qui est censé aider les travailleurs pauvres, enfin comme on dit, les travailleurs pauvres. Il a aussi absorbé les personnes qui étaient au RMI à l'époque. D'ailleurs, on disait bénéficiaires du RMI. Il se trouve qu'à cette époque, j'avais la grande chance d'être bénéficiaire du RMI. Donc, on a signé des contrats avec les travailleurs sociaux qui n'avaient pas été mis tellement au courant, à part par la presse. Ils n'avaient pas eu d'infos à ce sujet-là. C'était un peu flou. L'assistante sociale m'a dit « on ne sait pas trop où on va ». Bon, bref. Des mois après, rien de changé, rien de nouveau, même en cas de reprise d'emploi. Les dispositions sont exactement les mêmes, sauf qu'il faut renouveler soi-même son contrat, sinon on est convoqué en commission pluridisciplinaire pour s'en expliquer. Bon, bref, mon propos est de souligner le caractère mensonger de l'information diffusée et l'insupportable suffisance de ceux qui se félicitent d'avoir eu d'aussi bonnes idées. Merci de m'avoir écouté et ne changez rien.
Salut à tous. Je vous appelle parce que je suis étonnée qu'à ce jour, aucun auditeur n'ait parlé de Ciné Hebdo qui doit cesser de paraître faute d'argent. Avec l'émission quotidienne de Daniel, ce journal nous apporte un langage différent, un petit souffle de liberté. Ses thèmes d'ailleurs, souvent, sont les mêmes que les vôtres. Par exemple, aujourd'hui, comme vous, dans un article intitulé « Courage, fuyons », Pierre Concialdi nous parle de Martin Hirsch et de son RSA au caractère tout à fait discriminatoire. Et il a participé, nous dit-il, à la xénophobie d'État. Et quand la population pauvre va atteindre 8 millions de Français, il s'éclipse discrètement. Alors je pense que l'abbé Pierre doit se retourner dans sa tombe. Mais ce que j'espère en tout cas, c'est qu'on pourra continuer à écouter Stéphane Guillon et votre émission. Autrement, alors là, qu'est-ce qui nous restera ? Allez, bisous à tout le monde. Au revoir.
Bonjour Daniel, à toute l'équipe et à tous les AMG. Je voudrais revenir sur notre ami Martin. Il y a un truc à savoir. Depuis environ une dizaine d'années, les ONG ont été amenées à se professionnaliser du fait d'un environnement et de modes d'action plus complexes. La seule bonne volonté des bénévoles n'était pas suffisante par manque de technicité. Alors, on peut considérer que c'est un mal nécessaire ou non, mais c'est un fait et à mon sens, les résultats sont plutôt bénéfiques. Parallèlement, cette ouverture aux professionnels de la profession s'est transformée en Eldorado au fil du temps pour les grands diplômés en quête de sens, alors HEC, NA, EDEC, IEP, etc. Et j'ai fait partie de cela il y a quelques années. Par quête de sens, effectivement, et par conviction aussi. Alors, on ne va pas dans une ONG pour l'argent. On gagne à peu près les deux tiers ou la moitié de ce qu'on peut espérer dans le privé. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est que beaucoup étaient là pour d'autres motivations que le seul sens, le pouvoir, la reconnaissance et la notoriété. Quand vous êtes cadre en ONG, vous êtes le chevalier blanc immaculé, le sauveur des pauvres ou des petits niaqués. Aucune porte ne se ferme. Vous êtes toujours bien accueilli, que ce soit de la part des politiques, des médias, des chefs d'entreprise, etc. Alors vous avez des goûts au firmament et vous pouvez vous constituer un petit réseau aux petits oignons. Bah, soyons clairs, les ONG font du bon boulot, ça j'en suis persuadé. Par contre, pour certains, c'est aussi un tremplin au pouvoir. Et ben, les convictions dans tout cela, ben, ma foi, elles sont un peu secondaires. Bon, bah, pour ma part, je suis retourné dans le privé. Et courage à tous.
C'est Marie-Thérèse de Vénissieux. J'apporte ma petite contribution à cette émission sur Martin Hirsch. Et au-delà de sa personne, c'est la question de l'humanitaire, du déséquilibre croissant entre recherche de justice sociale pour le droit de tous à une vie digne et charité pour l'accès de quelques-uns aux petites miettes. On nous propose comme modèle l'abbé Pierre, Mère Teresa, Sœur Emmanuelle, des personnes considérées comme des héros, mais qui en rien n'ont remis en cause le système, ni dans le monde, ni dans l'Église. Concernant l'abbé Pierre, je voudrais rappeler, en même temps que son appel de 54, si largement et comme on l'a dit, savamment médiatisé, il y a eu le 1er mars 54, l'arrêt brutal de l'expérience des prêtres ouvriers par une condamnation sans appel de Rome. Là, il s'agissait de bien autre chose que de faire sortir quelques sous de la poche des riches, faisant appel à leur générosité pour les pauvres. Les prêtres ouvriers, dans les usines, se compromettaient avec le Parti communiste. Dans leur lutte avec leurs camarades, ils exigeaient la justice. C'était autrement dangereux. Ce sont d'ailleurs les patrons américains qui ont fait pression sur le Vatican pour que l'expérience soit stoppée net. Voilà un contraste très instructif, ne trouvez-vous pas? L'abbé Pierre n'a jamais été très inquiété, ni par les politiques, ni dans l'Église. Quelle belle caution il a représentée pour les uns et les autres. Il n'a jamais dérangé. Et aujourd'hui, la misère existe toujours et de plus en plus. Pour Mère Teresa, me vient en mémoire l'article du Monde diplomatique il y a une quinzaine d'années. Cet article dénonçait l'argent sale que Mère Teresa avait refusé de rendre lorsque sa provenance avait été révélée. Pour elle, pas question. L'important n'était pas l'origine de l'argent, mais sa destination. Que pensez-vous de cela ?
Merci Marie-Thérèse, merci pour ce message. Et merci pour tous les autres, mais celui-là tout particulièrement, effectivement, qui rappelle la différence qui a pu exister à cette époque entre l'engagement très social, mais politique des prêtres ouvriers et l'engagement qui était et qui fut celui de l'abbé Pierre, plus souvent proche de la charité que de la justice, au sens de la loi et au sens du droit et au sens de la dignité. C'est important de repartir avec cette base-là aujourd'hui, puisque je dois dire quelque chose, c'est que vous n'avez pas été entièrement convaincu par l'émission d'hier, hein, qui essaye, avec François Ruffin et Olivier Villain, de faire le bilan de ce qu'a été l'action de Martin Hirsch. Oh, ben dites donc, c'est tout ce que vous avez comme adversaire, il n'y a pas plus urgent, il n'y a pas plus important. Bien sûr, mais ça, il y a d'autres personnalités politiques dont nos confrères s'occupent. Martin Hirsch, voilà, il sort de ce gouvernement, tout s'est bien passé, il a été célébré absolument par tout le monde au cours de sa collaboration avec le gouvernement de Nicolas Sarkozy, et puis, de François Fillon plus exactement, et puis il s'en sort bien, enfin tout va bien. Donc voilà, c'était plus intéressant et plus difficile aussi d'essayer de faire le bilan de ce personnage souriant, lisse et qui a tout réussi d'après lui et d'après nos confrères et les commentateurs. Voilà pourquoi nous continuons aujourd'hui autour des thèmes qui viennent d'être évoqués et qui sont redevenus d'actualité ces temps derniers d'une manière particulièrement vive et parfois obscène. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Basse, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Salut Daniel, ton émission vient de se terminer. Les infos, les gros titres, nouvelle proposition d'Éric Besson sur la sécurisation des frontières et Brice Hortefeux vont renforcer la sécurité dans les gares. Suite à ton émission sur Natixis, j'attends la proposition de Madame Lagarde sur la sécurisation des petits porteurs abusés, trompés et spoliés par des banquiers cupides. Allez, salut Daniel et continue comme ça.
Oui, bonsoir Daniel, aux AMG. Florian Noisy-le-Grand, il y a quand même une chose sur les fins Natixis qu'il faut préciser, c'est que il y a un consultant qu'on voyait souvent à la télé, qui était Marc Touati, et en fait représentant chez Natixis au poste de directeur de recherche économique et financière de juin 97 à janvier 2007. Il est également maître de conférence à l'Institut d'études politiques. Voilà, donc il a fait un livre magnifique en mars 2000. C'était son premier ouvrage qui était intitulé Le retour du plein emploi, une nouvelle révolution française. Voilà. Au revoir à tous.
Allô, la Dolce Vita ? Voilà, j'ai une retraite minable et je n'arrive pas à joindre debout. Que me proposez-vous ? Eh bien, nous avons une solution pour vous et pour 10 millions d'abonnés. Nous allons augmenter nos tarifs de 9%. Et cela dès aujourd'hui. Merci GDS Suez, c'est super pour mon pouvoir de vivre, comme le dit un AMG. Et merci à notre président qui vous a accordé ce privilège. Marie-Paul de Villejuif, au revoir.
Bonjour à tous les auditeurs de là-bas si j'y suis, et en particulier à ceux de la région de Montbrison. Le sixième café repère de là-bas si j'y suis aura lieu ce soir, jeudi 1er avril, à 19h30, et toujours à l'Afro-Cuban Club à Montbrison. Nous aborderons ce soir le sujet de la démocratie.
Salut Daniel, c'est Marion. Depuis ce matin, on parle partout d'Haïti, avec la conférence internationale des donateurs qui s'est clôturée hier. Je voulais juste rappeler à tout le monde que le 27 février, le Chili a été secoué par un séisme de 8,8 sur l'échelle de Richter. S'en est suivi un tsunami et on ne parle pas des répliques. Le coût de la reconstruction est environ de 30 milliards d'euros. Alors ce soir, la mairie du 13e prête une salle parce qu'il y a une soirée organisée par le comité d'action Chili au profit d'un syndicat de femmes pêcheuses d'un village qui s'appelle Colliumo. Alors voilà, ça commence à 18h30. Et c'est jazz, musique classique, chansons populaires, empanadas et pisco au menu. Voilà.
Oui, salut Daniel, salut tout le monde, c'est Fred d'Aubagne. Bon, ben ça y est, finalement, je me suis résigné, passé à droite. Non, allez, ça va, poisson d'avril, je suis plus motivé que jamais. Allez, salut tout le monde.
Bon, ben ce matin, Daniel, il faut y retourner parce que... J'avais à peine rencontré Martin Hirsch, que voilà qu'il quitte le gouvernement, à moitié débarqué, à moitié démission. Donc la question c'était, est-ce qu'on diffuse l'émission ? Est-ce qu'on n'est pas en train de tirer sur un corbillard, quoi ? Il faut que je décroche mon vélo là pour partir à la gare. Alors j'ai vu Martin Hirsch hier à la télévision. Bah, il était loin d'être un corbillard, au tout contraire. Il était encore en train de donner des leçons. Il disait à la gauche qu'il fallait qu'elle se réconcilie avec la droite, que ben, sur les retraites, il fallait qu'ils se mettent gentiment d'accord et ainsi de suite. Quoi. Tu vois, et d'ailleurs, enfin, sa lettre de départ. Alors, je grimpe à vélo. Pédaler vers la gare.
C'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Olivier Villain et François Ruffin. Pauvre Martin, pauvre misère.
Flight number 2, arriving from New York.
Il y a eu sa lettre de départ, où d'une part il dit qu'il va se lancer dans le social business. Une où il dit « Sans Nicolas Sarkozy, le revenu de solidarité active n'aurait jamais été créé. Ceux qui bénéficient de ses avancées peuvent lui être redevables. Je ne sais pas s'il faut qu'il se cotise pour lui offrir des vacances sur un yacht ou quoi. » Donc là, pour moi, c'est bien la preuve que au-delà de Martin Hirsch, le social business, c'est-à-dire finalement, Martin Hirsch... Au-delà de sa personne, il incarne quelque chose. La charité experte, quoi. Alors on va garer le vélo. Avant d'aller à la gare et rencontrer à Paris des bénéficiaires
du RSA. Puis leur demander si ces bénéficiaires se sentent redevables à Nicolas Sarkozy. Puis aussi les gens qui sont dans des associations qui luttent contre la pauvreté. Voir si eux aussi ils ne devraient pas se tourner comme Martin Hirsch vers le social business.
Pas de sous. Il n'y a pas de sous. Chômage, pauvreté, retraite, protection sociale, il n'y a pas de sous. Déficit public, trou de la sécu, il n'y a pas de sous. C'est la crise. Et qu'est-ce que je vois là? Oh, 70 milliards d'exonérations fiscales en France. Oh, exonération fiscale. Ah oui, mais il y en a peut-être de légitimes, des exonérations fiscales, des encouragements, des allègements dans certains cas, certaines entreprises, certaines... Oui, mais enfin, voyons cette étude d'alternative économique qui date d'octobre dernier et qui nous raconte que ces exonérations fiscales dont bénéficient les plus riches et les plus grosses entreprises, représentent une somme assez rondelette entre 2000 et 2010. Les exonérations fiscales représentent une perte annuelle de ressources publiques de 82 milliards d'euros chaque année. En 10 ans, les recettes de l'État sont passées de 18,3% à 14,1% du PIB. Oui, depuis 2000. Et en 2000, Nicolas Sarkozy n'était pas président de la République. Voilà une indication quand même intéressante. Quel rapprochement peut-on faire entre ces exonérations fiscales et le chômage et la pauvreté et les retraites et la protection sociale et le trou de la sécu? On peut quand même se demander tout simplement si pour combler ces inégalités et ces détresses et ces misères, on ne pourrait pas voir de ce côté-là. Il semble que non, hein, jugé par ce qui a été répondu à ces contestataires furieux qui voulaient que le bouclier fiscal soit revu. Pas question. Alors, il y a ce pauvre. Le pauvre, on l'a chassé, on l'a poursuivi, on l'a enfermé, on l'a rendu responsable de sa propre déchéance jusqu'à ce qu'il dise lui-même « c'est de ma faute », jusqu'à ce qu'il intériorise sa propre déchéance. Mais malgré tout, malgré le détachement cynique un peu partout affiché, le pauvre gêne, le pauvre gâche une bonne soirée, vous êtes là, vous sortez, puis vous en avez un qui est sur le trottoir, ça gâche un peu la vie. Vous sortez d'une boulangerie luxueuse et puis vous avez ce pauvre qui est là, ça gâche un peu l'existence. Voilà pourquoi on est si reconnaissant à des figures comme celle de l'abbé Pierre, de nous alléger de ce fardeau, de cette mauvaise conscience, de cette culpabilité sociale, de nous racheter en somme, nous qui sommes de pauvres pêcheurs. Et ce dont je parle là, au fond, c'est la vieille scène de la charité. Et la charité, on le sait, ne change rien. La charité rend l'inégalité acceptable. Ça fait de la pauvreté et de la détresse sociale une fatalité, un mal insoluble, mais dont notre humanité est coupable. Il s'agit de justifier les inégalités aujourd'hui, car ces choses religieuses s'éloignent. Mais il y a aujourd'hui les intellectuels, il y a les médias, il y a tout ce personnel qui est là, ce clergé séculier, pour apporter les convictions et les éléments pour entretenir le caractère fatal et définitif des inégalités, l'inéluctabilité des inégalités. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aussi ? Eh bien, il faut prouver, apporter des preuves. Et là, on peut aller chercher l'un des plus généreux, l'un des plus vertueux, l'un des plus avertis, l'un des plus déterminés, l'un des plus diplômés, par exemple, Martin Hirsch, pour prouver que c'est impossible, qu'on n'y peut rien, ou qu'on peut faire un tout petit quelque chose, mais un tout petit peu, et pas davantage que ça. Voilà pourquoi nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Parce que la misère, il y a ceux qui la vivent et ceux qui en vivent.
Il y en a marre des pauvres. Les pauvres, ils font aucun effort pour devenir riches. Y en a marre des pauvres. Et quand ils jouent au loto, ils réfléchissent même pas ce qu'ils cochent. Y en a marre des pauvres. Et puis c'est sûrement la faute des pauvres s'il y a de la misère. Marre des pauvres, marre des pauvres. Y en a nanana. Y en a marre des pauvres. Oh oui, marre des pauvres, marre des pauvres. Y en a nanana. Y en a marre des pauvres. Il y en a marre. Les pauvres quand ils travaillent, ils enrichissent les riches. Du coup faut pas qu'ils s'étonnent, bah s'ils sont toujours aussi pauvres. Marre des pauvres, marre des pauvres. Ils font chier, ils font chier, ils font chier. Ils sont maigres. Marre des pauvres, marre des pauvres. Ils font chier, ils font chier. Ils mangent encore plus mal que nous. Heureusement les très très riches, tout le monde peut crever, ils s'en foutent. Il y en a marre, marre des pauvres. Et puis c'est facile de se plaindre quand on sait qu'on est la majorité. Marre des pauvres.
Tu vois ? Ouais. On se trouve à Paris, à la Confédération Générale du Logement. Il y a, au-dessus de nos têtes, il y a des portraits au-dessus de l'armoire, à côté de piles de dossiers. Il y a trois portraits côte à côte de l'abbé Pierre.
Alors, oui, on est à la CGL, à la Confédération Générale du Logement. Pourquoi faire ? Qu'est-ce qu'on fait là ? Eh bien, on va essayer de savoir un petit peu. Là, c'est le bilan de l'action de Martin Hirsch au cours de son passage au gouvernement. J'ai sous les yeux un article de l'hebdomadaire Le Nouvel Observateur du 4 septembre 2008 qui est absolument dithyrambique, qui s'intitule « Comment Martin Hirsch a gagné ?»« Le capital paiera pour les pauvres. » Pour faire passer son projet de revenu de solidarité active, le haut commissaire de Sarkozy a montré que derrière le haut fonctionnaire doublé d'un expérimentateur social, il y avait surtout un stratège, histoire d'un sans-faute. Enthousiaste, le journaliste du Nouvel Observateur et toute la presse à l'époque étaient enthousiastes. Alors on s'est beaucoup tourné effectivement vers Martin Hirsch à l'époque, et on se tourne toujours beaucoup vers Martin Hirsch et vers ses personnalités politiques, mais là en l'occurrence beaucoup moins vers les bénéficiaires du RSA.
Vous, Roland, on commence par vous, parce que vous êtes pressé. Vous avez dit, bon, j'ai encore des recherches d'emploi à faire après.
Absolument.
Donc il faut que je vous libère assez rapidement, quoi.
Tout à fait. Je suis diplômé d'une grande école de commerce. J'étais chef d'entreprise. Ma vie a basculé en 2005, quand la maman de ma fille est partie avec ma fille à sa naissance. Ça a été un petit peu la catastrophe. Le monde s'est écroulé, hein, tout simplement. Je n'ai absolument pas honte de le dire. J'ai pas de revenus, je suis considéré comme totalement insolvable.
Vous avez rien du tout comme revenu ?
Si, j'ai le RSA. Plus quelques aides, bien évidemment, parce que je pourrais pas payer uniquement avec le RSA un loyer de 1 000 euros par mois.
Vous savez combien de temps que vous êtes au revenu de solidarité active, alors ?
Ça fait 5 ans.
Ça fait 5 ans ? Auparavant, c'était le RMI ?
Oui, c'est ça, oui.
Et qu'est-ce que ça a changé pour vous, le passage du RMI au RSA ?
Absolument rien. Enfin, c'est un changement d'appellation, c'est tout. Quelques centimes d'euros en plus, Oui, il a augmenté de quoi, je sais même plus. Oui, je dois toucher 1 ou 2 euros de plus.
Et est-ce que pour ça, vous vous sentez redevable à Nicolas Sarkozy?
Alors, pour ça...
Pour ces 4 euros, par exemple.
Je ne me sens redevable auprès d'aucun homme politique.
Pourtant, Martin Hirsch, dans sa lettre de démission, là, bon, il disait que d'une part, il allait se tourner vers le social business, mm-hmm. et puis d'autre part, il disait que tous ceux qui bénéficiaient du revenu de solidarité active devraient se sentir personnellement redevables à l'égard de M. le Président de la République.
Je suis prêt à le rencontrer, hein, s'il le souhaite, puis on discutera.
Et donc, si je suis Martin Hirsch, vous me dites quoi, alors?
Je vous dirais bad luck for you, mais je vous fais confiance pour rebondir. Vu votre passé, vous allez probablement ouvrir un cabinet de consultants en matière sociale et vous aurez forcément une clientèle tout de suite et un chiffre d'affaires assuré. Donc, je me fais vraiment aucun souci pour vous.
Je suis heureux pour tous les gens que ça va concerner.
28 août 2008.
C'est pas encore l'aboutissement, quoi.
Martin Hirsch, sur la réforme du RSA.
Le plus dur est fait, mais maintenant, il faut que tout le monde se mobilise. Ce truc-là, c'est pas fait pour tourner les pouces, c'est fait pour qu'on aide les gens à retravailler, pour que les entreprises se mobilisent. Voilà, donc on a encore du pas sur la planche, là.
Le président,
mais l'essentiel est gagné, c'est irréversible.
Le président vous a soutenu aussi. Absolument. Contre sa majorité?
Pas du tout, pas du tout. Il a soutenu, il s'était engagé. Il savait quelles étaient ces conditions-là, et la majorité, je suis sûr que la majorité sera contente d'avoir fait cette réforme, et l'opposition aussi.
Patricia, vous, est-ce que vous avez la chance, de bénéficier du revenu de solidarité active?
Je ne sais pas si vous faites de l'humour, mais avoir la chance, ou alors la malchance, de bénéficier du RSA, autant que ce soit un bénéfice. C'est absolument insuffisant. Moi, au milieu des années... Alors, tout allait bien, je fais des études supérieures, donc j'avais un bel avenir devant moi. La vie était presque un long fleuve tranquille. J'étais professeur non titulaire, donc. Mais il se trouvait qu'une année, on n'a plus besoin de mes services. On m'a jeté.
Vous étiez professeur de quoi?
De français. Voilà, français, latin éventuellement, sachant que ça fait quand même presque une dizaine d'années qu'il y a environ 10-12 000 personnes qui sortent d'éducation nationale.
Vous dites, tous les ans, il y a en gros 10 à 12 000 suppressions de postes, mmh. et finalement, les premiers qui sont supprimés, ce sont les vacataires, ce sont les gens qui ne sont pas titulaires.
Oui, tout à fait.
Et donc, finalement, vous vous retrouvez jeté, mais ensuite, en ayant d'autant plus de mal à re-rentrer qu'il y en a d'autres qui sont jetés
bien
à
sûr,
leur tour.
Oui. C'est-à-dire qu'on se retrouve nombreux à n'avoir comme expérience professionnelle que être pédagogue. Voilà ce que je dis quand je suis à la NPE, où autant que le Pôle emploi ait encore le temps et la possibilité de nous recevoir. Ce crée une rivalité entre les formateurs, ça devient quasiment insupportable, si vous voulez. Et l'idée aussi que, tout en étant RMiste, donc infiniment pauvre, les sandwicheries là, devant lesquelles je suis passée, moi je n'irai pas. Parce que 5 ou 6 euros pour moi, c'est immense à dépenser. Mais quand je suis en entretien d'embauche, il n'empêche que je dois faire comme... Je dois socialement représenter quelqu'un qui a effectivement les diplômes, qui a effectivement les moyens, qui pourra sortir, qui va au théâtre régulièrement, qui évidemment part en congé, part en vacances. D'ailleurs, j'ai déjà prévu une chose admirable pour mon prochain week-end de Pâques, c'est-à-dire être chez moi. Voilà. Donc il y a tout aussi, ce sur quoi j'insiste, c'est tout le mensonge social qui est d'autant plus difficile à vivre parce qu'on doit se présenter comme si tout va bien. Il est sûr que si j'écris RMiste à NPE sur mon CV sur 3 ans, je ne rentre jamais à l'entretien. Donc je ne le dis pas, et après j'avance, et je fais comme si, comme je suis aujourd'hui, vous voyez, je me pomponne, je me maquille, tout va bien. Donc à force de se priver, et on se prive sur 6 mois, 1 an, c'est jouable, mais sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans et plus, parce que c'est pas fini, mon tunnel, il n'est pas terminé. Parce que moi, je ne sais déjà pas comment je termine le mois. Même vivant seul, je ne sais pas ce que je vais manger d'autre que des pâtes. Hein, sachant que moi, je vis un joli placard à balai de 25 mètres carrés. Donc, avec un loyer quand même confortable. Quoi. Bah, c'est-à-dire que je paye plus de 600 euros pour un rez-de-chaussée, un logement.
Et comment vous dégagez 600 euros sur votre RSA, alors?
On se demande, on se pose la question, des pâtes, encore des pâtes, toujours des pâtes.
Ça fait combien de temps que vous avez fait une demande de logement social?
Ça va faire 4 ans, ça va faire ma 5e année que je la renouvelle. Oui.
On vous fait des propositions?
Aucune, tant que je n'ai pas de CDI. Et alors, surtout, l'idée, c'est qu'il y a tellement de demandes avant moi, de gens notamment qui ont des enfants en bas âge, aucun bailleur social n'acceptera de me loger. Et pour ce qui est du RSA, sauf que au lieu de quand je pianote ma situation actuelle ou trimestrielle ou envers la caisse d'allocation familiale, au lieu de RMI, je vois RSA, c'est tout.
Est-ce que vous vous sentez redevable avec votre revenu de solidarité active à l'égard de Monsieur le Président de la République, Nicolas Sarkozy ?
Je me sens redevable de rien à personne. Le RMI n'a pas été créé par Monsieur Nicolas Sarkozy.
Pommes de terre, encore, conserve alimentaire. Seulement le 15 du mois et c'est déjà la faim qui tord. Le corps, besoin élémentaire et le menteur fera un beau discours à 20h ou positif et l'inventaire. Culpabilisation du demandeur d'emploi. Plus de refus et plus de droits. Tant d'ouvriers déçus qui ne se réclament plus de droits. Le droit de travailler pour payer, charger loyer, noyer dans les factures. Le cerf se débat, pas le seigneur, le roi aggrave la fracture.
Lorsque les vitrines qui font envie réussissent à nous faire croire que toute cette marchandise a plus de valeur que nos vies. Quand les discours ne tiennent pas leurs promesses, alors que l'amalgame est fait entre précarité et paresse. Maladresse dans les mots et dans les gestes, y'a l'opulence et puis le reste. Un peu de ferraille dans la poche, juste ce qu'il faut pour ne pas perdre la face. Quand les vitrines reflètent nos visages envieux, on se casse. De cette impasse, drôle d'époque, début de siècle, ça se trahit dans le brouillard.
Ça baisse les bras, ça baisse la garde.
Quand d'autres s'entraident et se préparent, drôle d'époque, début de siècle, ça se bouscule et s'entasse. Au portail de la débrouille, dans la détresse de cette impasse. Drôle d'époque, début de siècle, ça se trahit dans le brouillard.
Ça baisse les bras, ça baisse la garde.
Quand d'autres s'entraident et se préparent.
Un petit crédit, un peu de répit, un peu de poisse, un peu de chance, un peu de patience, un peu de vacances, un peu de sexe, un peu d'amour, un peu de soupir, un peu de sourire, un petit bambin qui me fait grandir, un peu de galère, un peu de colère, un peu de vide dans le frigidaire, un peu d'insultes, un peu de trafic, un peu de fatigue et deux trois fautes, et deux trois fautes, et deux trois fautes, un peu de tôle, un peu de mépris, un peu de mort, un peu de vie, un minimum, un minimum, un minimum.
Donc là, on est à Paris, dans le 17e arrondissement, à la Confédération Générale du Logement. Alors, la Confédération Générale du Logement, il y a la Confédération Nationale du Logement, c'est plus ou moins lié au Parti Communiste. Et la Confédération Générale du Logement, c'est plus proche de l'abbé Pierre, dont on a d'ailleurs, au-dessus de l'armoire, là, à côté de tous les dossiers, on a trois portraits de l'abbé Pierre.
Bah, écoutez, ça s'est construit dans les années 54, après l'appel que l'abbé Pierre a fait. Nous sommes une des composantes du mouvement Emmaüs.
Voilà, une des composantes du mouvement Emmaüs, Confédération Générale du Logement. Il faut rappeler quelques chiffres très rapidement concernant le logement pour Paris, par exemple. Rappeler que 10% des logements à Paris sont vides, c'est-à-dire qu'il y a 136 000 logements vides à Paris. Songez-y quand vous voyez des squats ou des occupations et des CRS en train d'évacuer des gens qui font un squat. Voilà, 136 000 logements vides dans Paris et 2 millions à travers toute la France. Et le nombre total de personnes connaissant une problématique forte de mal logement, selon la Fondation Abbé Pierre, c'est 3 500 000 personnes vivant en France qui ont des problèmes de logement.
Alors là, on vient de discuter avec Patricia et Roland. Bon, surtout, il y a, bon, dans leurs ennuis, il y a des ennuis qui s'accumulent. Hein. Mmh. Des ennuis de santé, éventuellement, des ennuis de famille, des ennuis d'emploi. Et puis, la cerise sur le gâteau, c'est les ennuis de logement. Dans les deux cas, il y a des demandes de logements sociaux qui sont effectuées. Et là, dans les deux cas, ça traîne pendant 3, 4, 5 ans. Ça commence en 2005, on est en 2010, et il n'y a toujours pas de réponse.
Mmh. Ben oui, j'ai presque envie de dire, et là, c'est normal. On manque cruellement de logements en France. Tous les spécialistes s'accordent pour dire qu'il manque approximativement, on va dire, environ 1 million de logements. Donc à partir du moment où il manque autant de logements, tous les gens qui peuvent prétendre au logement social et qui sont prioritaires, bah, ils sont obligés de faire la queue, quoi. Et puis parmi les gens qui font la queue, on prend d'abord les cas les plus graves, et les deux personnes qu'on a entendues là sont des cas, selon moi, graves, mais il y a encore, hélas, plus grave.
Puisqu'il y a un manque, vous dites, il y a un manque de 1 million de logements sociaux,
Ça veut dire qu'on a dû se dire, bon, bah voilà, c'est une priorité. Plutôt que, je sais pas, de la fibre optique, on va dire, l'urgence, c'est de construire donc ce million de logements qui manque. Donc on a dû mettre le paquet là-dessus.
Eh bien, il suffit de regarder les budgets que l'État consacre au logement social pour voir qu'il est en diminution. Ça tourne autour de 9% par rapport à l'année précédente.
C'est-à-dire que déjà, au départ, c'était insuffisant. Et ensuite, on dit, bon, bah voilà, il y a un déficit de l'État. Donc, c'est là-dedans qu'on va prendre 9% pour avoir moins de déficit.
Voilà. On constate que cette crise, elle atteint maintenant les classes moyennes. Que
l'on la crise financière, là, vous parlez de la crise du logement.
La crise du logement.
Quand il y a eu l'élection de Nicolas Sarkozy en 2007, que Martin Hirsch est devenu haut-commissaire aux solidarités actives, vous avez dû vous dire, chouette, il y a des mesures qui vont avancer.
Personnellement, je ne me suis pas dit chouette. Quand ce côté politique est aux affaires, nous ne voyons pas les crédits pour le logement social augmenter, aussi loin qu'on remonte dans l'histoire.
C'est-à-dire, quand ce côté politique ?
Eh bien, on dit, l'équipe de Nicolas Sarkozy, pour faire simple.
Vous voulez dire que pour vous, la droite et la gauche, c'est pas quelque chose qui est mort, et quand la droite est au pouvoir, il y a moins de crédits pour le logement social, c'est...
Oui, bah, il suffit de regarder, c'est ce qu'on constate.
Vous avez connu les deux. Vous avez connu l'abbé Pierre, dont le portrait est au-dessus de nous, et il n'y a pas le portrait de Martin Hirsch au-dessus de nous, mais je pense que c'est parce qu'il est dans nos cœurs.
Non, moi, quand il est rentré au gouvernement, je pense que c'était pas une bonne nouvelle du tout, ni pour lui, ni pour le mouvement.
Il a créé le RSA. La différence entre le RSA et le RMI, c'est 4 euros. Voilà, c'est tout. Mais avec le peu de crédit dont il disposait, il ne pouvait pas faire mieux. Donc moi, j'aurais été à sa place, je n'y serais pas allé. Parce que pour moi, il était évident que ça se terminerait comme ça. Et je suis convaincu que si l'abbé Pierre était encore vivant et qu'on lui avait proposé une place au gouvernement, il aurait dit non. Martin Hirsch lui a répondu oui. C'est toute la différence entre les deux hommes.
Dans cette communauté de Neuilly-sur-Marne, la présence de Martin Hirsch au gouvernement a surpris ses compagnons.
France 3, 19 mai 2007.
Il n'est pas ministre parce qu'il n'en voulait pas le titre, mais haut-commissaire à la solidarité, une fonction taillée sur mesure.
Moi, je dirais un peu trahison quand même, parce que par rapport aux communautés, je dirais un peu, voilà.
Trahison, disent certains, car Martin Hirsch, 43 ans, est d'abord un homme de gauche. Ancien directeur de cabinet de Bernard Kouchner à la Santé, il a clairement soutenu Ségolène Royal pendant la campagne présidentielle. Le voilà aujourd'hui chargé de la pauvreté dans un gouvernement de droite, une mission qui l'a obligé à démissionner hier de la présidence d'Emmaüs. Le successeur de l'abbé Pierre a donc choisi de combattre la pauvreté d'une autre manière, que dit-on, l'abbé n'aurait pas forcément condamné.
Dans les échos, Martin Hirsch s'engageait et disait, voilà, d'ici 2012, en 2 ans, il y aura moins 30% de pauvreté. Est-ce que vous en avez vu déjà les premiers signes ?
Mais non, mais tout cela fait partie des annonces qu'on nous balance. Et curieusement, d'ailleurs, quelques mois après, on n'en entend plus parler, parce qu'il n'y a plus lieu d'en parler, puisque ça ne s'est pas réalisé. Non, je réponds 1000 fois non, nous ne voyons aucun progrès dans ce domaine. Aucun progrès. On nous avait dit la même chose pour la maison à 15 euros par jour, qui est un véritable fiasco. On nous avait dit la même chose pour tous les Français qui devaient devenir propriétaires, et aujourd'hui, un certain nombre de gens qui se sont lancés dans l'accession à la propriété sont en train de le regretter parce qu'ils n'ont pas les moyens d'assurer le paiement de leur remboursement. Donc non, on n'a pas vu de progrès dans le domaine du recul de la pauvreté, bien au contraire.
Vous, on croit pas mal des personnes qui sont au RSA, je ne sais pas si on dit des RSA, c'est déjà...
Ah oui, bien sûr, on en croise pas quelques-uns, un certain nombre, mais on ne croise pas que cette catégorie-là à la CGL.
Alors, est-ce que vous envisagez de faire ensemble une lettre de remerciement commune de toutes les personnes qui sont au revenu de solidarité active adressée à la présidence de la République ? Pour le remercier.
On pourrait remercier effectivement Nicolas Sarkozy d'aider les pauvres à être encore plus pauvres.
Non, ces choses sont graves et on n'a absolument aucun envie de remercier, certainement pas ce président actuel. On n'a pas envie de le remercier pour sa politique. Sa politique est la mise en place, quoi qu'on en dise, de l'exclusion en France.
Mais alors, quand vous voyez l'ancien responsable d'Emmaüs France, le fils spirituel de l'abbé Pierre, qui, dans sa lettre de départ, dit qu'il va faire du social business et ensuite ajoute que toutes les personnes qui sont revenues de solidarité active devraient se sentir personnellement redevable à l'égard du président de la République.
D'abord, il y a quelque chose que vous dites qui me fait bondir, c'est quand vous parlez de Martin Hirsch comme fils spirituel de l'abbé Pierre. Ça me fait bondir. Et deuxième chose, j'étais Quelques semaines après sa nomination au gouvernement, il y a de cela 3 ans, au Salon Emmaüs de Paris. Et comme il venait d'être nommé au gouvernement, il a voulu visiter le salon. Et à un moment, nous étions au stand de la CGL et on a entendu un ensemble de sifflets, une sorte de protestation montée. On se demandait ce qui se passait.
C'était le mouvement Emmaüs qui venait acclamer Martin Hirsch.
Qui accueillait Martin Hirsch par des sifflets. Je crois que tous les compagnons d'Emmaüs qui étaient là ont dit à Martin Hirsch ce qu'il pensait de son arrivée au gouvernement. Et si aujourd'hui il revenait au salon de Versailles, mais je crois qu'il n'osera pas, ce serait pire. Donc je crois qu'à l'intérieur du mouvement Emmaüs, ce que les gens pensent de Martin Hirsch, c'est ça. Hein, donc il ne le remercie pas, bien entendu.
Oui,
bonjour, excusez-moi de vous déranger.
Je
suis François Ruffin, je suis reporter pour France Inter.
Oui.
J'avais entamé un bilan des années Hirsch, pour ainsi dire. Voilà. Mm-hmm. Et je l'avais rencontré dans un cinéma, puisqu'il venait présenter un film. On avait commencé à sympathiser.
Oui.
Et entre-temps, il a quitté le Haut Commissariat.
Mm-hmm.
Pour réactualiser le sujet, j'avais 3 questions complémentaires à lui poser.
Je peux vous demander de les envoyer par mail ?
Oui, d'accord.
Alors, c'est agence, service-civique.gouv.fr.
Cool. Je vous remercie, au revoir.
Au revoir.
Bon, alors, les 3 questions que je vais envoyer par mail à Martin Hirsch. La première, c'est sur les pauvres qui se sentent abandonnés dans le pays. Quand on a appris qu'ils quittaient le Haut Commissariat aux Solidarités Actives, il y a eu comme un immense sanglot dans le pays, des 30% de personnes qui allaient quitter le seuil de pauvreté d'ici 2 ans et qui d'un seul coup se sont senties abandonnées. Donc ça c'est la première question. La deuxième question, c'est quand il dit que les bénéficiaires de ces avancées sociales, à savoir le revenu de Solidarité Active, peuvent se sentir redevables à l'égard de Nicolas Sarkozy. Je voudrais lui demander, en fait, qu'est-ce qu'on pourrait lui offrir à Nicolas Sarkozy. Est-ce que, par exemple, les personnes qui bénéficient du RSA pourraient se cotiser ensemble pour lui offrir une Rolex? Ça reviendrait pas trop cher, parce qu'il y en a quand même un certain nombre au RSA, donc si on divise, ça devrait pas revenir trop cher pour offrir une Rolex au président de la République. Donc je me demandais si Martin Hirsch connaissait ses goûts et si ça, par exemple, ça lui ferait plaisir. Et ma troisième question, ça c'était sur le social business, parce que là, je vois qu'il va lancer des projets. Dans sa lettre de départ, il annonce qu'il va lancer des projets innovants dans le domaine du social business, en partenariat avec des entreprises prêtes à s'engager. Si ces entreprises, c'était Accor, Bouygues, Carrefour, LVMH, France Télécom, Publicis, Sanofi, Renault, Suez, avec qui il réclamait déjà en 2005, lorsqu'il était à tête de Emmaüs France, les Jeux Olympiques à Paris, afin que les pauvres puissent ramasser les ordures à la fin des Jeux Olympiques, et ainsi prouver leur utilité sociale dans un partenariat donnant-donnant. Donc voilà les 3 questions que je vais adresser au service de presse de Martin Hirsch, et puis on espère qu'on aura une réponse enthousiaste et rapide.
Positif, positif, soyons positifs. Positif, propos positif, soyons positifs. Positif. Dans la vie, il faut positiver. Comme ce SDF qui récemment me disait, je suis pour la baisse de la taxe d'habitation. On sait jamais. Positif. Propos positif, soyons positifs. Propos positif. Positif, soyons positifs. Positif.
Alors là, on se trouve à Montreuil, au siège d'Emmaüs. Vous, monsieur Dugois, vous êtes le délégué général, donc on va dire le numéro 1 administratif de Emmaüs France. Derrière vous, il y a une carte de la France administrative, justement, avec plein de punaises dedans. On vient vous voir parce que on a lu une interview de Martin Hirsch, notamment dans Les Échos. Il y avait ce titre: nous maintenons l'objectif de réduction d'un tiers de la pauvreté d'ici à 2012. Donc en 2 ans, réduction d'un tiers de la pauvreté. Vous, je dirais à Emmaüs, sur la pauvreté, vous êtes en première ligne.
Est-ce que vous avez déjà assisté à une embellie? Est-ce que vous croyez cette embellie?
Il nous paraît totalement irréaliste aujourd'hui de parler de baisse de la pauvreté. La question qui est devant nous, c'est plutôt, comme pour le chômage, et les deux choses sont liées, comment on va limiter la hausse? Tous les phénomènes de fond, et pas uniquement la crise financière, je dis bien tous les phénomènes de fond, sont au rouge. Les phénomènes de fond, c'est qu'on oublie par exemple que la baisse de la pauvreté dans les dernières décennies est liée pour l'essentiel à la baisse de la pauvreté des personnes âgées. Grâce à la mise en place de la protection sociale en 1945, qui commence à produire ses effets en 1970 et qui nous amène à des taux bas maintenant. Et ce phénomène-là est en train de se retourner avec la mise en œuvre de la réforme des retraites de Balladur en 1995, qui produit ses effets 15 ans plus tard et qu'on commence à voir concrètement. Je vous donne un exemple. Vous avez aujourd'hui une des responsables du Nord qui nous dit « Nous faisons des soupes sur le terrain. » Et qu'est-ce que nous voyons à la fin de la soupe pour les personnes qui sont à la rue, etc. Arriver des personnes âgées qui viennent récupérer la fin de la soupe pour manger. Et ça, c'est nouveau, ça n'existait plus. Donc on voit réapparaître une pauvreté des personnes âgées qui avait disparu. Donc le phénomène, là, il est de fond, et il n'est pas lié à la crise économique et financière, il n'est pas lié au RSA, il est lié à des actes publics qui ont été posés il y a 15 ans. Donc quand on me dit « ça va baisser », moi je ne vois pas par quel mécanisme on peut atteindre la baisse de 30%. Honnêtement, je ne vois pas.
Martin Hirsch, en mettant en place le RSA, était très fier parce qu'il avait réussi à arracher 1,5 milliard d'euros supplémentaires au gouvernement, donc à Christine Lagarde, à Éric Woerth, auprès de Nicolas Sarkozy, pour mettre en place le RSA. Donc 1,5 milliard d'euros. Et ça paraissait comme une conquête sociale. Je ne sais pas si vous êtes au courant de l'exonération sur les plus-values boursières. Ça vous dit quelque chose ou pas? Ça coûte une mesure dont on n'a pas entendu parler, que Éric Woerth avait eu à mener un bras de fer important avec Nicolas Sarkozy ou avec Martin Hirsch pour imposer son exonération sur les plus-values boursières. Ça revient chaque année, maintenant, à 7 milliards d'euros. Donc c'est 5 fois plus que le RSA.
Si on veut raisonner comme ça, si on se dit est-ce qu'on a les moyens financiers de prendre des mesures massives contre la pauvreté, la réponse est oui. Et pas seulement sur les plus-values. Vous avez 70 milliards d'exonérations fiscales en France. Globalement, c'est 70 milliards. Donc, on pourrait très bien revisiter l'ensemble. Et le fait de revisiter l'ensemble, à mon avis, n'est pas un crime de lèse-majesté ou quelque chose en période de crise. Le simple fait de remettre ces dossiers sur la table, à mon avis, est très positif. Globalement, le rôle de Martin Hirsch aujourd'hui, c'est de lutter contre la pauvreté, mais dans un cadre global qui fabrique de la pauvreté. On est en train d'essayer de vider une baignoire en laissant tous les robinets ouverts, voire en rajoutant des robinets. On a un tiers des personnes hébergées dans des centres Emmaüs de la capitale qui sont salariées. Enfin, je veux dire, on marche complètement sur la tête. On voit très bien que les débats sur la réforme des retraites sous-estiment totalement les bombes à retardement qu'on va mettre en place du côté de la pauvreté. On voit très bien que quand on négocie les conventions sur le chômage et justement les conditions de financement des fins de droit, eh bien, ça n'est pas prioritaire. Et après qu'on ait posé tous ces actes-là qui vont créer massivement de la pauvreté, on se demande si oui ou non le RSA va être efficace. Mais on n'est pas du tout sur les mêmes échelles et pas du tout dans le même registre. D'un côté, on a un système lui-même aujourd'hui qui broie tout le monde. La question, c'est pas Martin, je serais presque tenté de dire le pauvre Martin.
Pauvre Martin, pauvre misère. Difficile, bien difficile d'obtenir quelques critiques. Celles-ci, oui, il faut quand même aller les chercher. Et encore plus rare dans les médias. Il faut ouvrir ce numéro de Ciné Hebdo pour trouver un papier de Pierre Cancialdi sur Martin Hirsch, intitulé « Courage, fuyons ». C'est commentaire de Pierre Cancialdi.
Alors Pierre Concialli, vous êtes chercheur à l'IRES, l'Institut de Recherche Économique et Sociale. Vous êtes un peu un monsieur chiffre. Vous êtes le co-auteur d'un livre qui s'appelle « Le grand trucage » qui est signé Lorraine Data. Donc data, c'est les données en anglais, les données. Alors là, on vient vous voir parce qu'il y a une très bonne nouvelle. C'est que la pauvreté, d'après Martin Hirsch, va baisser de 30% en 2 ans. Vous applaudissez vous aussi ?
Non, enfin, faut regarder d'abord comment on fait baisser, comment on atteint l'objectif effectivement fixé par Martin Hirsch de baisser la pauvreté de 30%. Martin Hirsch n'a jamais proposé que le RSA. Ça serait une vision très technocratique de penser qu'un dispositif puisse résoudre le problème de la pauvreté. Il y a des politiques d'emploi, des politiques de formation, du logement, de la santé. Enfin, il y a plein de choses à faire pour arriver à effectivement améliorer la condition des personnes pauvres. Donc là, on se retrouve avec un RSA, mais qui est seul dans une politique d'ensemble qui va complètement à contre-courant. Hein.
C'est triste ce que vous racontez. Hein.
Non, c'est pas triste.
Il y a un bonhomme qui a mis ses mains dans le cambouis, qui a fait tous ses efforts pour apporter une mesure positive, puis vous vous dites, bon, bah, finalement, ça ne sert à rien.
Faut voir, ça sert toujours à quelqu'un, hein. Mais faut voir à qui. Ce qu'on peut souligner, c'est que c'est pas négatif pour tout le monde. Là, j'avais retrouvé une citation d'Hervé Gouriot, qui est le délégué général de l'association patronale Entreprises et Progrès.
Entreprises
et Progrès. Et qui disait que, je cite, hein, du côté des dirigeants d'entreprise, le RSA est une veine pour les entreprises qui font appel à l'emploi à temps partiel. Et ce même monsieur, Hervé Gouriot, ajoutait que dans certaines petites entreprises, celles-ci pourraient être incitées à proposer davantage de temps partiel. Donc, ce n'est pas forcément négatif pour tout le monde, le RSA.
Donc là, le patron, là, monsieur, là, le patron, monsieur Gouriot, là, le responsable, le délégué général de l'association patronale Entreprises et Progrès, finalement, il dénonçait le RSA comme étant une manne pour les employeurs.
Bon, il disait qu'il y avait un risque que, effectivement, ça soit une opportunité pour les employeurs, ce qu'a toujours démenti Martin Hirsch. Enfin, il ne faut pas prendre non plus les patrons pour des imbéciles complets.
Est-ce que le RSA, ça marche ? Réponse oui. Est-ce que ça aide les gens à s'en sortir ? Réponse oui.
France Inter, 24 septembre 2008, Martin Hirsch.
Est-ce que ça va peser sur les pauvres ? Réponse non. Voilà. J'admets qu'il peut y avoir des effets secondaires et des risques. Depuis des mois que nous expérimentons le revenu de solidarité active, dans les zones où on l'expérimente, il n'y a pas plus de temps partiel, il n'y a pas plus de précarité, il n'y a pas des salaires moins élevés. Le RSA, avec des effets secondaires éventuels, potentiels, ça vaut mieux.
Alors vous, Jean-Baptiste Hérault, là, on se trouve dans un kebab qui est à côté de l'École nationale d'architecture, dans le 19e à Paris, dans le nord de Paris. Vous, ça fait des années que vous travaillez, sinon main dans la main, du moins en proximité, avec Emmaüs et avec le fondateur d'Emmaüs.
Oui, l'histoire du DAL est imbriquée avec l'abbé Pierre, qui nous a soutenus quasiment jusqu'à sa mort en 2007. C'est-à-dire que l'arrivée de l'abbé Pierre sur une occupation toute fraîche faisait déguerpir, comme une volée de moineaux, les CRS nombreux qui étaient envoyés par le gouvernement. On sentait qu'il aimait bien venir à nos actions. Il disait toujours d'ailleurs, je viens si vraiment c'est indispensable, hein, et puis essayer de trouver quand même des remplaçants à mon âge.
Et donc justement, il y a eu un remplaçant. Il y a eu, comme le titrait par exemple le Nouvel Observateur, un fils spirituel, un héritier à Emmaüs France, qui était Martin Hirsch.
Martin Hirsch, on ne l'a jamais vu. Hein. Nous, on ne l'a jamais vu sur les actions qu'on a menées. On peut dire que les relations sont distendues considérablement à partir du moment où il a pris la direction d'Emmaüs, alors que jusque-là, on travaillait plutôt bien ensemble. Quoi, hein. Les relations entre Emmaüs et le DAL étaient bonnes. On va dire jusqu'à l'arrivée de Martin Hirsch, qui a pris les distances à ce moment-là du DAL.
Quand vous faisiez des actions, il venait quand même ?
Martin Hirsch, non. Martin Hirsch ne venait pas. Jamais venu à nos actions. Mais par contre, l'abbé Pierre continue à venir. D'ailleurs, Emmaüs n'a plus jamais réellement apporté son soutien au DAL. Pardon, Emmaüs n'a pas soutenu le campement de la rue de la Banque. Par contre, ils se sont positionnés au moment où Martin Hirsch, justement, a dénoncé, nous a critiqué sur notre action et a repris les propos de Christine Boutin, qui disait que ces familles étaient logées. Ces familles qui campaient rue de la Banque depuis des mois, finalement, étaient logées. Bon, alors que si elles campaient, c'est parce qu'elles vivaient dans des hôtels qui n'étaient pas des logements, qui étaient des chambres d'hôtel. Et il a pris une position, il a fait une déclaration condamnant l'occupation du DAL et laissant sous-entendre qu'on manipulait les familles.
Et moi, vous avez vu sa lettre de départ ou pas ?
Non.
Parce que dans sa lettre de départ, là, j'ai dans mon sac, mais Martin Hirsch dit bien que tous ceux qui bénéficient du revenu de solidarité active, ils doivent se sentir personnellement redevables à l'égard du président de la République.
Oui, d'accord. Lui est redevable envers le président de la République, c'est certain.
Mais si on peut se concentrer sur l'essentiel et si je peux...
RTL, 23 mars 2010.
Profiter du fait que j'ai repris ma liberté de parole complète. Allez-y.
Martin Hirsch.
Non, ça me permet d'utiliser ma liberté de parole pour aussi exprimer ma gratitude pour les conditions dans lesquelles le président de la République a tenu ses engagements, m'a laissé travailler, a pris des risques pour que ça se passe. On a fait le revenu de solidarité active. On a mis en place des expérimentations. On m'a souvent dit que c'était des bons sujets, des bonnes réformes. Je ne les ai pas faites malgré lui, je les ai faites grâce à lui.
Merci qui ? Merci à tous. Merci à Olivier Vilain et François Ruffin pour ce reportage. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission La Bastille, j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission et faire des commentaires. Vous pouvez également la réécouter sur labas.org, la-bas.org. À la technique aujourd'hui, Ronan Mahé et Amandine Grévoz. Réalisation Koye Nguyen et Raphaël Mouter, d'assister d'Agnès Lebot. Et Céline Rouzet, quant à elle, attend vos messages au répondeur de La Bastille, j'y suis, dont le numéro est de 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
Salut mes petites beautés, c'est Cyril Hanouna. Qui aime bien, allume bien, surtout la télé. Alors tous les jeudis, on va bien se marrer avec ce qu'il fallait vraiment rater ou vraiment regarder. Les programmes les plus trash, les plus top, les plus nuls de la semaine. Autour de moi, les chroniqueurs les plus forts du monde. Et chaque semaine, l'invité de la mort qui tue.
Touche pas à mon poste, la première c'est jeudi à 22h40 sur France 4.
Oh, ça va être bon ça.
Oh oui, on se retrouve demain 15h pour la Bastille, j'y suis. Les infos, Angélique Bouin, salut.
Après le passage de la tempête Xynthia, la justice veut faire toute la lumière sur les conditions dans lesquelles des zones inondables se sont retrouvées constructibles. Le procureur des Sables-d'Olonne en Vendée confirme qu'une enquête a bien été ouverte pour homicide involontaire. La plupart des 53 victimes sont mortes dans ce type de zone. Thierry Dran précise qu'il n'en est pas à chercher des responsabilités, mais il faut comprendre, selon lui, comment tout cela s'est passé. Des producteurs de lait en colère ont déversé des centaines de litres de lait dans le centre de Nantes en début d'après-midi. Ils étaient plus de 150 réunis par le syndicat Appli, l'association des producteurs de lait indépendants et la Confédération paysanne de Loire-Atlantique. Ils annoncent de prochaines actions auprès de leurs députés pour qu'ils fassent davantage pression sur l'Europe. 13 députés UMP enfoncent le clou dans une tribune du journal Le Monde, malgré la mise au point hier du président Sarkozy qui exclut toute marche arrière. Il réclame la suspension du bouclier fiscal pour redonner, disent-ils, du sens à la politique. Parmi les signataires figurent notamment les villepinistes Marc Bernier, Marianne Montchamp ou encore Michel Raison. La visite de Brice Hortefeux en Seine-Saint-Denis après l'incendie et le caillassage de deux bus hier soir. « On ne va pas se laisser intimider », a déclaré le ministre de l'Intérieur, qui est allé dans le commissariat de Villepinte, dont des pans tremblaient en France. Il a aussi félicité les policiers pour leur coup de filet anti-drogue de lundi, coup de filet mené dans la cité où se sont déroulées les agressions d'hier. C'est aussi dans ce quartier du Grand Ensemble qu'a été tourné le documentaire de TF1. Pour beaucoup, pas de doute, il y a un lien. Le maire de la ville, François Assensi, estime qu'il s'agissait d'un guet-apens organisé en représailles. Une réaction politique aux chiffres du déficit 2009 rendu public hier par l'INSEE, celle d'Elisabeth Guigou. Ils contredisent, selon elle, massivement, je cite, les mensonges de l'UMP et confirment les bons résultats des collectivités locales. C'est ce que déclare la secrétaire nationale du PS, qui est chargée de la réforme de l'État et des collectivités. Le déficit de celle-ci est en baisse par rapport à 2008. Il passe de 8,5 milliards à 5,5 milliards d'euros, alors que celui de l'État et de la sécurité sociale explose. L'actualité à l'étranger, c'est tout d'abord la confusion qui règne en Guinée-Bissau. Se déroule, semble-t-il, un coup d'État. Le Premier ministre a été arrêté par des soldats et la radio nationale diffuse des programmes militaires. Dans la rue, plusieurs centaines de personnes sont rassemblées devant le siège du gouvernement pour exiger la libération du Premier ministre. Et à l'instant, un chef de l'armée, le chef d'état-major adjoint de l'armée, menace de tuer le Premier ministre, Carlos Ghosn, si les attroupements de ses sympathisants sympathisants ne cessent pas. Hamid Karzai s'en prend à la communauté internationale. Pour le président afghan, les fraudes massives commises lors des élections présidentielles et provinciales sont imputables, dit-il, aux représentants des Nations Unies ou à des observateurs de l'Union européenne. Pas de réaction du côté de l'ONU. Pour Paris, ces accusations sont sans fondement.
Le fou du roi. Stéphane Bern.
Demain, vendredi à 11h, Stéphane Bern recevra David Servan-Schreiber et Taylor Branch. Rendez-vous une demi-heure avant le début de l'émission dans le grand hall de la Maison de Radio France. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Le fou du roi. Stéphane Bern, du lundi au vendredi à 11h sur France Inter.
France Inter et le Théâtre de la Ville présentent, du 1er au 11 avril, deux spectacles du Berliner Ensemble. L'opéra de Katsu de Bertolt Brecht, musique de Kurt Weill, dans une mise en scène de Bob Wilson, et Richard II de Shakespeare, mise en scène par Klaus Peymann, le directeur du Berliner Ensemble. À retrouver dans les émissions de France Inter.
France Inter, la différence.
Il est 16h04, on poursuit l'après-midi en musique avec vous Frédéric Lodéon, bonjour.
Bonjour Angélique.
Carrefour de l'Odéon.
Bonjour, bonjour, bonjour à tous. L'amour, toujours l'amour, et oui, Alexandre Borodine avait 9 ans lorsqu'il a écrit une petite polka, tout simplement parce qu'il était tombé désespérément amoureux d'une très belle dame, Hélène. Après, il l'a transcrite, cette pièce-là, pour piano à 4 mains, enfin c'était déjà tout à fait charmant. Polka Hélène. Devait être bien charmante, la jolie dame, pour que Borodine lui dédie cette polka Hélène. Nous avons entendu Marco Rapetti avec Danelia De Santis. Et voici une autre danse, un ballet, c'est un peu vague, mais enfin ça détermine non pas une personne là, mais plutôt un peuple. Il s'agit d'un opéra de Smetana, les Brandebourgeois en Bohème, les Brandebourgeois c'est les Allemands, et il y avait au XIIIe siècle une pression, c'est-à-dire que les Tchèques étaient confrontés à l'armée ennemie, et ça a été C'est une forme d'incitation à la violence que ces brandebourgeois en bohème, et ça a beaucoup plu à l'auditoire tchèque lors de la parution, lors de la représentation en 1866. Et puis ce ballet, bah, il s'en est servi, ça arrive souvent que les musiciens se servent d'une pièce pour l'intégrer à une autre œuvre. Bah, il l'a prise dans La fiancée vendue à un moment, et puis après ça il l'a remplacée par une autre devenue beaucoup plus célèbre, c'est La danse des comédiens. Mais voici ce ballet des brandebourgeois en bohème de Smetana.